Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le net, Dieu vous bénisse. C'est une belle journée ensoleillée encore ici, on se croirait au printemps. Hein, c'est vraiment, on est bien, c'est super. Pour vous que ça dure. Vous connaissez pas cette chanson?
Non.
Il faut être très vieux pour la connaître. Eh bien, nous avons prié le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous savons que tu nous aimes et que tu nous conduis, que tu nous guides. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais au travers de nous. Nous voulons nous remettre encore entre tes mains pour que tu puisses faire davantage et que nous soyons encore plus utiles pour la gloire de ton nom et pour l'établissement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, nous te prions que cette parole de ce matin puisse bénir chacun et chacune et que ceux qui sont chancelants puissent trouver des forces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Ce matin, nous allons faire une lecture dans Doctrine et Alliance. Section Doctrine et Alliance 29-4-7. En vérité, donc c'est Jésus qui parle, pas prophétie, dans une prophétie. En vérité, je vous le dis, que vous êtes choisis d'entre le monde pour annoncer mon évangile d'une voix pleine d'allégresse, comme avec le son d'une trompette. Ayez votre cœur et réjouissez-vous, car je suis au milieu de vous et je suis votre avocat auprès du Père. Et son bon gré est de vous donner le royaume. Et comme il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi, étant unis dans la prière, comme je vous l'ai commandé, vous le recevrez. Et vous êtes appelés à réaliser le rassemblement de mes élus, car mes élus entendent ma voix et n'endurcissent pas le cœur. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus veille sur nous en tout temps. Dans l'épreuve, il nous fortifie. Jésus avec nous, ça ne veut pas dire pas d'épreuve. Mais dans l'épreuve, il nous donne des forces. Et il nous donne des forces, attention, selon notre foi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est selon notre foi. Donc ça veut dire que c'est avant l'épreuve qu'il faut cultiver notre foi, afin que dans l'épreuve, eh bien, nous puissions être fortifiés, d'après la foi, d'après la qualité de notre foi que nous aurons acquise. Il nous bénit, il nous fortifie selon notre humilité et selon notre obéissance. Il ne va pas contre ses propres lois. Il pourrait, mais il ne va pas contre ses propres lois. Jamais. Des fois. Des fois, on appelle ça des miracles. Ce matin, nous sommes réunis pour louer le Seigneur notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas une réunion comme les autres, c'est un culte. Un culte, ça veut dire qu'on rend un culte. Nous ne rendons pas un culte à un homme, mais à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été fait homme pendant un temps, ça a duré une trentaine d'années, mais maintenant, il est Dieu, complètement. Amen. Et c'est à lui que nous rendons ce culte. Il nous faut considérer que tout au long de notre vie, il est resté fidèle à chacun d'entre nous. Et quand il était sur cette terre, lui-même, il est resté fidèle à son Père et à son appel de sauveur du monde, parce qu'il était venu pour ça. Bien sûr qu'il a fait des tas de choses, il a dit des tas de choses, mais il avait quelque chose en number one. C'était, je suis le sauveur du monde, je suis venu pour ça. Et nous, nous devons savoir pourquoi nous sommes venus. Nous devons savoir pourquoi nous sommes là. On peut faire des tas de choses, mais la grande chose pour laquelle nous sommes là, moi, la grande chose pour laquelle je suis là, c'est pas la même chose que la grande chose pour laquelle tu es là, Olivier, ou Dominique, ou... Personne n'a le même appel, on a tous quelque chose de particulier à faire. Il est donc resté fidèle à son appel de sauveur du monde. Beaucoup ne se rendent pas compte à quel point Jésus a beaucoup prié et beaucoup pleuré à cause des péchés du monde. C'était une souffrance tout au long de sa vie terrestre. Parce qu'il se rendait compte, chose qu'il ne pouvait pas comprendre avant vraiment, parce qu'il n'était pas dans la chair, mais il se rendait compte, là, quand il était dans la chair, combien c'est fragile. C'est fragile. Et alors, il a beaucoup pleuré, beaucoup prié, pour les pécheurs. Aujourd'hui, il est au milieu de nous, il est notre avocat auprès du Père, il veille sur nous. Ça veut dire quoi, il est notre avocat? Ça veut dire qu'il prend notre défense, ça veut dire que des fois, il y a de quoi. Parce que des fois, on fait des bêtises, des fois, on n'est pas clair, des fois, on n'est pas au top, mais nous avons un avocat auprès du Père. Et il gagne toujours ses procès. Il sait comment parler au Père. Il lui présente son sang. Ça, c'est le Père là-devant, il craque. Mais ça ne va pas être pour nous une occasion de se dire « Ah ben, de toute façon, on a un avocat auprès du Père, donc allons-y, on peut faire ce qu'on veut. » Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut être des gens réfléchis dans les choses de l'esprit. Et il fait tout pour que nous persévérions jusqu'à la fin. Parce qu'il nous a sauvés, il n'a plus à le faire. Mais maintenant, ce qu'il fait, c'est tout pour que nous persévérions jusqu'à la fin. Ça, c'est important, puisqu'il a dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pas seulement ceux qui croient, ou ceux qui croient qui sont immergés dans l'eau, mais c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Jésus ne nous a-t-il pas portés au travers de tout, tout au long de notre existence? Si vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous allez pouvoir dire oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous le savons. Et on voit des catastrophes, encore ce matin, je me réveille, je rencontre mon frère Stéphane qui me dit « T'as vu, c'est encore tremblé en Italie, et cela depuis la frontière autrichienne jusqu'à Rome, un tremblement de terre de 7,1 sur l'échelle de Richter. » Tout de suite, j'ai téléphoné à mon frère Charef pour savoir s'il allait bien. Gloire à Dieu, il va bien. On est toujours soulagés quand... parce que c'est vrai, il y a des hiérarchies dans la vie. Il y a premièrement notre famille, ensuite il y a nos frères et sœurs, et puis après il y a tous les amis, les copains, les connaissances. Et là, comme il était dans le coin, de là où ça s'est passé, la première chose, j'ai téléphoné à Charef pour savoir. Alors lui et Lucia, ils vont bien. Tout va bien, il n'y a rien qui s'est effondré là-bas, là où ils sont. Il y a des catastrophes, nous voyons ça, il y a des conflits qui augmentent ici-bas. Mais tout ça, ça a une signification. C'est pas par hasard que ça arrive. Alors il faut qu'on s'en souvienne et il faut qu'on y réfléchisse. Parce que si on s'en souvient pas et si on n'y réfléchit pas, quand nous allons être pris dans une tourmente de ce genre-là, les émotions risquent de gagner et nous risquons d'être ébranlés. Il faut que nous soyons fermes. Il faut qu'on s'habitue à être fermes. Parce que nous ne passerons pas par la grande tribulation, ça c'est certain, Jésus va nous enlever avant, mais il y aura les prémices de la grande tribulation, ça a déjà commencé. Et il n'y a aucune raison pour que rien ne nous arrive. Aucune. Si vous faites votre devoir, et si je fais mon devoir, nous serons protégés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, mais nous serons protégés. Nous traverserons les afflictions dans la paix du cœur. Nous serons protégés et nous traverserons les afflictions dans la paix et la sécurité. Ça veut dire quoi dans la sécurité? Ça veut dire qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas être blessé? Non, c'est rien de tout ça. C'est que nous n'abandonnerons pas notre foi et notre raison de vivre. C'est ça la chose. Si vous regardez l'histoire des chrétiens qui nous ont précédés, on ne peut pas dire que Dieu avait abandonné l'apôtre Pierre. La preuve, c'est qu'il a été crucifié la tête en bas. On ne peut pas dire que... Ben non. Ils ont souffert. Bientôt, les signes dans le ciel vont commencer. Pour le moment, il y en a qui disent « Oh, les signes dans le ciel, c'est les ovnis. » Bon, c'est bien gentil, mais je ne crois pas que c'est ça. Il y en a qui disent c'est les chemtrails, je ne sais pas comment on dit. Oui. Non, ça c'est de la rigolade. Non, je pense qu'il va y avoir des éruptions solaires qui vont être graves. Jusqu'à maintenant, il y a déjà eu des éruptions solaires. C'est quelque chose qui existe et on est toujours plus ou moins touché, la Terre est touchée. Il y a eu une très très grosse éruption solaire en 1870-73, je ne me rappelle plus exactement, j'ai lu ça il y a quelques temps. Et c'était terrible, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'électronique, hein. Donc ça n'a pas dérangé grand chose. Il y a des forêts qui sont mises à brûler spontanément, il y a eu des choses comme ça, mais il n'y a pas eu... Par exemple, si ça arrivait maintenant, je ne sais pas si vous imaginez un peu la catastrophe, ça détraquerait pas mal de choses sur la Terre, et je pense que Dieu le fera pour abattre l'orgueil humain et, dans sa technologie. Il se croit devenu Dieu parce que, voilà... C'est vrai que c'est miraculeux quand vous voyez, on est entouré de tous ces trucs, de tous ces appareils, de communication, c'est phénoménal, c'est fantastique. Mais Dieu peut, il fait ça et hop, tout est cassé. Oh, j'ai tout cassé. Alors il faudra manifester plus que jamais de l'indépendance d'esprit, de l'honnêteté du cœur et de la foi en Dieu. Et de la force de caractère. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire de la muscule spirituelle pour la force de caractère. Pas se laisser ébranler parce que notre chat a passé sous une voiture ou parce que... Voilà, les gens, c'est effrayant, ils se laissent ébranler par des niaiseries. Enfin, c'est vrai, on les aime bien nos chats, nos chiens, nos veaux, nos vaches et nos cochons, mais quand même, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut avoir une échelle aussi hein, de valeur, et puis il faut apprendre à être fort, à avoir un caractère fort, parce que si vous vous habituez pas maintenant, vous allez être pris au dépourvu quand les choses graves vont arriver. Il faut vivre une vie de disciple avec une force de caractère face au monde qui nous désapprouve, face à l'Église même qui nous désapprouve. Ils ne relâcheront pas leur combat, mais ce n'est pas grave. Toutes ces petites choses font que notre caractère se fortifie. Mes frères et sœurs, Daniel était prêt à entrer dans la fosse aux lions. Ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ne craignaient pas la destinée qui les attendait. Ils ne craignaient pas. Beaucoup de gens sont dans la crainte aujourd'hui en voyant ce qui se passe. La Bible dit, ils rendront l'âme de terreur. Terreur, tiens le mot terreur. Les apôtres étaient vaillants dans leur cause, c'est-à-dire pour la vérité, pour Jésus, ils étaient vaillants. Mais comment ils ont fait pour vivre toutes ces choses sans défaillir? Bien, premièrement, ils détenaient la vérité. Il faut être sûr de ce qu'on croit. Il faut être certain de ce qu'on croit. Tant qu'on n'est pas certain de ce qu'on croit, il faut aller sur les genoux, il faut invoquer Dieu, il faut crier à Dieu. Il faut chercher, celui qui cherche, il trouve. Et une fois qu'il a trouvé, il est tranquille, il peut passer plus loin. Premièrement, ils ont tenu sans défaillir parce qu'ils détenaient la vérité, ils la connaissaient personnellement. Ce n'était pas quelqu'un qui leur avait dit, sinon Jésus-Christ. Deuxièmement, ils ont pu tenir sans défaillir parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, vous savez que le Consolateur, c'est pas... On a une fausse idée au sujet de ce que ça veut dire. Vous savez ce que c'est qu'une console? Une console, c'est un petit meuble qui soutient. On peut poser un vase, on peut... Eh bien, le Consolateur, c'est celui qui nous soutient. Le Saint-Esprit est celui qui nous soutient pas. Il n'est pas celui qui vient puis qui nous tape sur l'épaule quand on est triste pour nous consoler. Non, non, c'est pas ça. Il nous soutient. Et ils ont été soutenus par le Saint-Esprit qui est le seul qui peut véritablement soutenir un enfant de Dieu dans ses difficultés. Pourquoi il est le seul? Parce que personne, on peut être au milieu de milliers de personnes, on est quand même toujours seul, et heureusement qu'on a le Saint-Esprit avec nous, parce que les gens ne comprennent pas forcément notre souffrance. Vous savez tous que la Lune a une influence sur la Terre, ne serait-ce qu'avec les marées, quand on regarde, mais ça n'a pas de l'influence que là-dessus, c'est aussi de l'influence pour les femmes qui accouchent. Et là, on attend justement là, quelque chose d'important en ce moment avec Lydie et Olivier. Et cet après-midi, nous avons un moment de prière, comme vous pouvez le voir sur Révélation Bible, à 17h39 précisément, parce qu'il y a un changement de lune, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans les lieux célestes et nous allons nous mettre devant ces portes pour fermer ces portes au nez de nos ennemis. La Bible dit, il est heureux celui qui repousse ses ennemis derrière ses portes, et ça c'est encore aujourd'hui, il y a plusieurs dates dans l'année, et aujourd'hui à 17h39 précisément, eh bien tous les chrétiens avertis, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques milliers qui viennent sur Révélation Bible, eux, le font. Eh bien, quand je dis que la Lune a une importance, une influence sur les choses, sur les gens, on a remarqué, nous autres, quand c'est la pleine Lune, les gens qui sont un peu fragiles du ciboulot, ça fait quelque chose. Parce qu'il y a une marée dans leur cerveau, hein, aussi. Et puis, il y a quelque chose qui se produit. Mais tous les médecins vous le diront, surtout les psychiatres. Eh bien, quand ces éruptions solaires vont avoir lieu, elles arrivent par des cycles, c'est par des saisons. Il y a des saisons sous le soleil, je ne sais pas si vous savez. Mais elles arrivent par cycle, eh bien, ça sera un orage magnétique qui va dérégler non seulement le matériel, c'est-à-dire toute notre technologie électronique et tout ce que vous voulez, le téléphone, ça ne marchera plus, les ordinateurs, ça ne marchera plus, dans les hôpitaux, tous les appareils, ça ne marchera plus. Ça va être une cata terrible. Ils sont en train de se préparer parce que ça peut être une panne de 2 jours ou une panne de... Ça dépend le pays, comment le pays se sera préparé. Une semaine, 2 mois, 3 mois. Puis ça va dépendre aussi de l'intensité de cette catastrophe. Mais ça n'attaque pas que le matériel, ça attaque aussi le cerveau. En fait, l'humanité risque de faire un bond de 150 ans en arrière. 150 ans en arrière. Fini les jeux. Ça ne marchera plus. Terrible, hein, les gamins. Si c'était que ça. Imaginez toute notre technologie d'être traquée. Et de cela, les prophètes ne parlent jamais. Vous n'entendez jamais un prophète qui parle de ça, dans les églises ou ailleurs. Pas plus qu'il ne parlait de la montée de l'islam et des dangers qu'il pouvait y avoir. Moi, j'en parlais il y a déjà plus de 20 ans et je passais pour un raciste. Parce que je disais, attention, mais t'es un raciste. Attention, je me dis, non, je ne suis pas, attendez. Je vois plus de musulmans noirs et de musulmans arabes que la plupart d'entre vous. Et je leur prêche l'évangile, je prie pour eux, le Seigneur les guérit, vous me traitez de raciste, vous n'avez rien compris, vous êtes borné. Ils n'ont rien compris. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, ça n'a rien d'expliquer, on perd son temps. Mais maintenant, nous sommes dans un véritable problème. Maintenant, l'islam, voilà, les gens... Et puis vous avez vu la montée de haine, par contre, parce qu'ils ne sont pas préparés. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Mes frères et sœurs, quand je regarde en arrière dans ma vie chrétienne, je peux dire que je n'ai jamais vu le peuple de Dieu plus heureux, plus soudé, plus aimant que dans la difficulté, dans la persécution, dans les problèmes, dans les attaques, dans les trucs difficiles. C'est vrai, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans la tourmente, à cause de la parole de Dieu, pas quand on est dans la tourmente à cause de nos péchés, mais quand on est dans la tourmente à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus-Christ, on est heureux. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit est avec nous, et dans la souffrance et dans l'humilité, le Consolateur est notre compagnon constant, et il réjouit, il soutient nos cœurs. Mes frères et sœurs, donc ne craignez rien, il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur, ça va arriver, mais... Alors, je donne des conseils, par-ci, par-là, je jette une petite idée, mais les gens, ils n'y croient pas vraiment, mais bon, je continue à le dire quand même. Faites quelques réserves chez vous, faites quelques réserves de l'eau pour 7 jours, un peu du sucre, du riz, des pâtes, faites des réserves, parce que, voilà, sinon vous serez pris au dépourvu. Faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Hein. Mes frères et sœurs, il est nécessaire que nous soyons humbles devant notre Dieu afin d'avoir davantage part au ministère du Saint-Esprit et au ministère des anges. Vous dites ange à un chrétien, tout de suite il pense démon. Il y a plus d'anges de Dieu que de démons. Mais que connaissent-ils du ministère des anges ? Nous sommes hors âge depuis 1977. Vous vous rappelez la prophétie que notre frère Branham a donnée en disant que il voyait le commencement de la fin de la fin des nations. Il n'a pas dit de la fin du monde. En 1977. Et on a vu, moi j'ai vu, j'ai vécu, j'étais chrétien déjà depuis 9 ans, et j'ai vu le changement en 77, j'ai vu le changement. Vous alliez dans les églises avant, il n'y a personne qui tombait par terre, il n'y a personne qui se roulait par terre en hennissant comme des... Non. Par contre, quand les pasteurs priaient pour les malades, il y avait des guérisons. Moi, je me rappelle qu'on était content d'aller à l'église avec des inconvertis parce qu'on savait qu'ils allaient en prendre plein la vue parce que Jésus se manifestait d'une façon extraordinaire. En 77, il y a une porte qui était fermée. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de miracles, mais il y a une porte qui était fermée, en tout cas en Europe. Et c'est là que nous avons créé la communauté. C'est là que le Seigneur nous a demandé de créer la communauté. N'oubliez pas, ça fera 40 ans l'année prochaine. On arrive, hein? On arrive. Dans la Bible, le 40 est significatif. Ça commence dans la Genèse. 40 jours, 40 nuits pour le déluge. Le 40, c'est le nombre dans la croyance juive. Et puis, il ne faut pas mépriser la croyance juive. Nous sommes sortis de là. Nous sommes issus. Notre culture est judéo-chrétienne. Le 40, c'est le nombre de l'attente, de la préparation ou du châtiment. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. On peut voir ça dans la Bible très clairement. Je vais donner quelques exemples. C'est aussi, dans la Bible, la durée d'une génération. Si vous êtes un chercheur respectueux des anciens, ce qui malheureusement devient de plus en plus rare, si vous dites par exemple Saint-Augustin à certains, ils vont vous dire « c'est satanique, c'est catholique, c'est didi ». Bon, lisez Saint-Augustin de grâce avant de dire n'importe quoi parce que vous avez lu quelque chose sur Wikipédia, un abruti illuminé qui dit n'importe quoi. Il y a un livre qui vient de sortir, vous pouvez vous le procurer, ça s'appelle « Les premiers écrits chrétiens ». Vous avez là-dedans Flavius Joseph, vous avez plein. C'est fantastique. Ça coûte, je crois, 60 d'euros ce bouquin. C'est dans la série « La Pléiade ». Achetez ça, lisez, instruisez-vous. On doit être instruit. Hein? Même j'ai la Bible, c'est bien. C'est bien que tu lises ta Bible si tu la lis. Mais je sais que beaucoup de chrétiens ne la lisent même pas. Enfin, c'est voilà, pauvre christianisme. Pourquoi je dis ça? Oui, donc si vous êtes des chrétiens respectueux des anciens, eh bien vous allez voir que saint Augustin disait que Dieu a donné 10 commandements et qu'après il a donné 4 évangiles qui marquent l'accomplissement de la loi. Et il dit 10 fois 4 égale 40, voilà le chiffre. C'est joli, moi je trouve que ça c'est bien. C'est 40 jours après sa naissance que Jésus a été présenté au temple, et puis il a jeûné 40 jours au désert, et puis on voit que Élie a marché 40 jours pour aller jusqu'au mont Horeb. Pourquoi toujours ce chiffre? Moïse avait 40 ans lorsqu'il était appelé par Dieu, il a gardé les troupeaux de Jéthro pendant 40 ans, il resta 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, vous le savez, vous vous rappelez de ça? Les enfants d'Israël ont vécu 40 ans dans la servitude chez les Philistins, vous voyez. Pour certains, c'est attente et préparation, et pour les autres, c'est châtiment. Les 40, c'est pas forcément bon. Ça dépend de la personne. Goliath, il a défié Israël 40 jours. Le pauvre, lui, il était du mauvais côté de la barrière, il est mort. Les Hébreux ont erré et traîné 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient désobéi. Le règne de David dura 40 ans, toujours 40. 40 ans après la croix, Jérusalem a été détruite, c'était en 70. Vous voyez, 40, c'est bénéfique pour les uns, mauvais pour les autres. Allez, bon. Des gens. Bref, le nombre 40 apparaît 98 fois dans la Bible. Pour les uns, le mot adorer, adoration revient 40 fois dans la Bible et le verbe renier aussi 40 fois. Oui, toujours. Mais il y a d'autres connaissances qui sont méprisées aussi par les évangéliques, souvent. Il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas trop bas de plafond. Mais... Savez-vous que la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le dalet, qui a la valeur numérique de 4. Le Dalet signifie la porte. Une porte, ça sert à ouvrir ou à fermer un espace ou un temps. Mais ça dépend de la personne, sur quoi ça s'ouvre, sur quoi ça se ferme. Sur quoi va s'ouvrir notre 40e année de vie communautaire, mes frères et sœurs ? Moi, je ne suis pas dans la crainte. Hein. Je ne suis pas dans la crainte. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais je suis en ordre. Je suis en ordre. Je n'ai pas... Comme Jésus, il a persévéré dans son ministère de sauveur du monde. Moi, je fais des tas de choses, mais j'ai persévéré dans ce que Dieu m'a demandé de faire. La lettre d'Alet est associée aussi, toujours dans la science de rabbinique juive, ce mot d'Alet est associé à la pauvreté. Et mes frères et sœurs, c'est bien ce que nous sommes, les pauvres de Dieu, ceux qui ont tout donné. C'est pas ce que Jésus nous a demandé, hein? Et Jésus dit que le pauvre, c'est celui qui se tourne vers Dieu pour crier sa plainte et il espère dans le secours de l'Éternel. Jésus dit, les pauvres ne disparaîtront jamais du monde. Jésus, le Saint-Esprit, dit aujourd'hui, il vous suffit de demeurer ensemble, c'est cela la compensation qui soulage. Et comme le dit Exode 30:15, le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Vous voyez, le riche ou le pauvre, on doit tous payer. La porte s'ouvre, mais sur quoi ? Mais de toute façon, il faut tous payer. Mais pourquoi on paye ? Pas pour notre salut, on sait bien que c'est Jésus qui a payé le prix parfait. Mais on paye pour notre qualité de vie future, dans le monde futur. Vous voyez, peu importe nos biens et qui les occupe, tous doivent payer le même prix pour avoir de l'huile sainte. Vous payez. C'est-à-dire, vous donnez votre vie, vous donnez vos biens, vous donnez votre temps, afin d'obtenir de Dieu l'huile fraîche, afin qu'elle ne vous manque pas au moment où on criera, et ce moment est arrivé, voici l'époux vient. Souvenez-vous de ce que j'ai écrit au sujet des pauvres selon Dieu. Ça se trouve dans le dictionnaire que vous avez dans Révélation Bible. Vous tapez dans la barre, en haut, dictionnaire, vous allez dans la lettre... Vous regardez le mot pauvre et vous allez voir ce que je dis au sujet des pauvres selon Dieu. Parce qu'il y a les pauvres selon le monde et il y a les pauvres selon Dieu. Il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux. C'est la dichotomie. Je reviens, on n'en sort pas. Les pauvres selon Dieu ont Dieu pour source. Et le pauvre selon Dieu, il ne lui manque jamais rien. Vous avez vu, selon Psaume 23:1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais de rien. Est-ce qu'on manque de quelque chose ? Non. J'ai pris 6 kilos depuis qu'on est là. Non, mais j'en avais besoin. Hein. Et Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection et il les a enseignés pendant ces 40 jours, selon Actes 1:3. Et Jésus nous a enseigné durant ces 40 ans. Il a façonné notre route et il continue de le faire. Il nous faut juste prêter l'oreille à sa voix et il continuera à nous donner suffisamment de grâce pour pouvoir résister aux prémices de la grande tribulation. Déjà, les enseignements qu'il nous a donnés nous ont rendu fort, mais nous avons besoin encore. Il ne faut jamais dire « ça y est, j'ai tout ». Car nous vivons déjà, le peuple chrétien vit déjà les prémices de la grande tribulation. Qui oserait nier ça ? Qui oserait nier ça ? Il suffit que vous regardiez ce qui se passe dans des pays totalitaires où l'islam fait rage. Vous allez voir comment les chrétiens... C'est hier, Michou m'a montré un article dans Paris Match. Paris Match, au sujet des horreurs que les chrétiens, nos frères et sœurs, vivent.
Ah, c'est pas nos frères et sœurs, c'est des catholiques idolâtres.
Tais-toi, andouille. Ce sont nos frères et sœurs, même s'ils sont catholiques, qu'est-ce que ça peut foutre? Mais vous croyez que Dieu s'arrête à des bêtises pareilles? Ils ont ce qu'ils ont reçu, ils ont reçu ce que Dieu a permis qu'ils aient, ils sont dans l'erreur sur certaines choses, moi aussi je suis dans l'erreur dans certaines choses, trouvez-moi quelqu'un qui n'est pas dans l'erreur dans un truc. C'est impossible, on est tous dans l'erreur au sujet de quelque chose. Et on cherche pour trouver. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ils sont massacrés, les femmes sont violées, les enfants sont massacrés, pris en esclavage, c'est une horreur. Et ça nous pend au nez. Vous allez voir, vous ne me croyez pas. Vous dites que Michel Jonton c'est un dingo. Eh bien, vous allez voir. Jésus revient bientôt. Mais comme Jésus a dû souffrir, comme les apôtres ont dû souffrir, certains jusqu'à la mort à cause du témoignage de Jésus, nous aussi nous aurons à souffrir. C'est obligatoire. Si tu ne souffres pas pour Jésus-Christ, tu ne pourras pas hériter de sa gloire. C'est écrit, oui ou non? Alors ces bisounours de chrétiens qui posent leur derrière dans les églises et qui prient pour être protégés et puis que tout aille bien, mais ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, si ce n'est pas plus loin, ils doivent souffrir. Ne priez pas pour ne pas souffrir, priez pour être fort quand ça va venir. Parce que ça va venir. Jésus-Christ n'exigera jamais que nous ayons à supporter plus que nous ne pouvons supporter. Et je vous assure, il y en a qui ne souffriront pas beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas supporter beaucoup. La seule différence. Et il en sera ainsi aussi longtemps que nous suivrons les conseils des cieux, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ et du ministère d'ange. C'est vrai. Alors, oui, les nuages s'amoncellent à l'horizon, qui peut le nier, mais Dieu veille sur ses intérêts. Il veille sur ses intérêts. Et il le fera jusqu'à ce que tous ces grands événements de ces derniers temps soient accomplis. Il faut que ça arrive. C'est prophétisé, c'est annoncé, ça doit arriver. Ne priez pas pour que ça n'arrive pas, ça ne sert à rien. Si vous priez pour que ça n'arrive pas, votre prière, elle va monter jusqu'au plafond, puis elle va vous dégouliner dessus, puis vous allez penser que c'est l'onction du Saint-Esprit, puis c'est pas ça du tout, c'est que votre prière n'est pas écoutée. Parce que on ne peut pas prier contre. Quand Dieu dit qu'une chose va arriver, si vous priez contre, vous croyez quoi? Que vous êtes une bande d'Harry Potter avec votre baguette magique, que vous allez pouvoir changer le cours de l'histoire? Non, mais c'est quoi ça? Il faut arrêter de tordre les choses. Restez fermes sur les Écritures saintes avec pour compagnon le Saint-Esprit et occupons-nous en faisant ce que Jésus dit de faire. Qu'est-ce qu'il dit de faire? La principale chose qu'il dit de faire, c'est aller et faites des disciples. C'est ça la principale chose que Jésus dit de faire. C'est ça notre appel. En fait, nous aimons les gens et la meilleure façon de les aimer, c'est de leur parler de ce que Jésus est en train de rétablir en ce moment. Il n'y a pas de plus grande joie que de faire connaître ces vérités de l'éternité aux gens. Moi, je suis dans une exaltation, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui quand je vois qu'il écoute ce que je suis en train de dire, alors bien sûr, il y a toutes sortes de gens. Il y a ceux qui connaissent rien à la Bible, ceux que nous appelons les inconvertis, et puis il y a ceux qui sont nés de nouveau et qui n'ont qu'une pauvre nourriture dans leurs églises et qui ne connaissent pas, qui savent pas que Jésus est en train de rétablir toutes choses. C'est ce que je disais hier soir à un frère. Je disais, mais Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses, et les chrétiens ne savent même pas ce que ça veut dire le rétablissement de toutes choses. Ils prennent pour signe Israël toujours. Oui, c'est bien. Moi, depuis 68, on me baratine ce truc-là. Mais acte 3:21, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés bloqués dans leur tradition, parce qu'ils sont restés bloqués dans leurs idées, parce qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'ils ne veulent pas apprendre, parce qu'ils sont flemmards. C'est difficile d'apprendre. Même la Bible le dit que c'est difficile et fatigant d'apprendre. C'est écrit dans la Bible. Mais c'est si bon de leur faire connaître l'évangile rétabli en ce jour. Et pour le faire personnellement, nous avons besoin de ce compagnon merveilleux qu'est le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit avec nous sans certaines conditions. Nous avons aussi besoin de l'Église rétablie, de travailler en unité dans la vie du Seigneur pour lui amener des âmes. Vous savez, Dieu a préparé la voie pour que nous fassions connaître l'Évangile rétabli et il nous aidera dans notre tâche si nous agissons avec foi pour accomplir son œuvre. Avec foi. Alors que les démons sont lâchés, alors que le séjour des morts est ouvert et que les morts se baladent aujourd'hui sur la terre, c'est épouvantable. Les chrétiens ne le savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils infestent, les morts infestent le monde des vivants. Alors que le terrorisme terrifie, alors que la nature se révolte, et que les signes vont apparaître dans le ciel selon la parole de Jésus, eh bien, nous serons heureux parce que nous serons au travail au milieu de tout ce gâchis. Amen.
Amen.
Alors, dès aujourd'hui, priez pour recevoir de Dieu le désir d'obéir à l'ordre de Jésus, allez et faites des disciples. Priez pour recevoir ce désir. Parce qu'une chose de savoir avec la tête, maintenant il faut le savoir avec le cœur. Ensuite, respectez les commandements parce que les membres les plus fidèles aux commandements sont les plus efficaces, les plus persuasifs dans l'œuvre de Dieu. Et surtout, enseignons nos familles, les enfants. Ne pensons pas que, parce qu'on leur a déjà dit une fois, ça suffit, c'est pas vrai. Il faut répéter, répéter, répéter. Regardez Frère Osborne. Quand vous lisez les livres de Frère Osborne, on dirait qu'il répète tout le temps la même chose. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Ensuite, alors, pensez à soutenir dans la prière et financièrement ceux qui prêchent l'Évangile. Soyez fidèles dans les offrandes et dans les dîmes et ne semez pas sur une terre qui ne produit rien juste par sentimentalisme. On doit faire les choses intelligemment. Là, on est entouré de vignes, là où nous habitons une partie de la communauté. Et nous voyons qu'il y a des terrains où il n'y a rien. J'ai demandé à notre voisin, mais pourquoi vous avez... Elle ne donne rien, cette terre. On ne met rien. Ah. Donc, il a fait l'expérience. Il a vu que ça ne donne rien. Bon, on ne donne rien, là. Il y a des endroits, ça ne sert à rien de semer. Parce que ça donne rien. Soyez renouvelés dans l'intelligence par le Saint-Esprit et soutenez ce qui a déjà fait ses preuves. Vous voulez du fruit ou vous voulez simplement semer? Semer là où la terre est vivante, là où il se passe des choses, là où il y a réellement des choses miraculeuses qui se produisent. Bien sûr, vous pouvez aider un nouveau ministère. Il se lève des nouveaux ministères. Mais avant de semer, mettez-les à l'épreuve. Titillez pour voir. Nous aurons tous des comptes à rendre de ce que nous faisons, de l'argent qui lui revient. Il y en a qui disent, non, tout mon argent est à moi. La dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Ils font comme ils veulent. Hein. De toute façon, ils rendront des comptes. Moi aussi, je rendrai des comptes. On rendra tous des comptes. Voilà, bon, on aura des surprises. Marche avec les doctrines, pas avec le cœur. Faut marcher avec. Quand on donne sa dîme, c'est pas à cause d'une doctrine, c'est à cause du cœur et de l'intelligence, les deux choses. La tête et le cœur, ça doit marcher ensemble. Faites tout avec intérêt. C'est drôle de dire ça, hein. Avec un intérêt authentique pour que les gens s'en rendent compte. Si vous leur parlez, oui, aujourd'hui, tu sais, je voudrais parler de Jésus parce qu'il a rempli mon cœur de joie et puis. C'est vraiment merveilleux, tu sais, vraiment, c'est extraordinaire, mais comment te dire la joie que je fais dans mon cœur? Ben, les gens vont tout de suite voir que vous n'y croyez pas. Hein? Parlez-en avec intérêt, c'est ça que je veux dire. Qui n'a pas besoin d'être béni dans ces moments difficiles? Tout le monde a besoin d'être béni, tout le monde. Et si... Nous ne nous mettons pas au travail maintenant, nous n'aurons aucune expérience lorsque les jours vraiment difficiles arriveront, parce que ce n'est pas encore vraiment difficile, en tout cas ici. Ce n'est pas vraiment difficile. Et alors, Si nous ne nous mettons pas au travail déjà maintenant, nous ne saurons pas comment faire parce que nous n'aurons pas l'expérience quand les moments très difficiles arriveront et nous serons submergés par l'ambiance catastrophique générale et on va faire comme tous les bons chrétiens font, on va donner dans l'humanitaire. Parce qu'il va falloir distribuer des couvertures, parce qu'il va falloir distribuer de la nourriture, parce qu'il va falloir soigner. Mais bien sûr qu'on fera ça aussi. Mais la chose numéro un que Jésus nous demande, c'est de faire des disciples. Nous faisons déjà de l'humanitaire. Je ne sais plus combien d'écoles déjà en Burkina, l'orphelinat, les villages et tout ça qu'on nourrit. Et tout. On fait déjà de l'humanitaire, mais ce n'est pas ça notre priorité. Notre priorité, c'est de faire des disciples. Amen. Il faut être équilibré. Mais comme ils ne font pas de disciples, quand ils verront les catastrophes, ils seront pris par les émotions, ils donneront uniquement que dans l'humanitaire, c'est tout. Mais ça ne conduira jamais personne à Jésus de faire de l'humanitaire. Les musulmans, ils font de l'humanitaire pour emmener les gens à l'islam. Ils ouvrent des écoles. Et les enfants qui vont à l'école, ils sont obligés d'aller à la mosquée avec leurs parents et on leur bourre le crâne. Ils font comme ça, eux. Nous, on doit premièrement prêcher l'évangile. Bien sûr, si le pauvre à qui on prêche a faim, il faut lui donner quelque chose à bouffer. Mais vous allez me dire, « Michel, tu te rends compte ?» Alors, il y a beaucoup de gens qui ont faim autour de vous. La plus grande partie des gens qui vous entourent ici en France n'ont pas faim. Bien sûr, il y a des SDF. Ça, c'est vrai. Vous pouvez leur donner, bien sûr, mais parlez-leur de Jésus aussi, surtout. Il y a combien de SDF en France? Des milliers. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on ne sait pas quoi en faire. Et puis tout à coup, ceux de Calais, là-bas, hop, en 3-4 semaines, on a trouvé moyen de tout de suite, des bâtiments pour eux, c'est formidable. Mais pour les Français, rien. Pourquoi? Parce que le monde est fou. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de s'occuper des immigrés, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il doit y avoir un équilibre. Et si ce n'est pas nous qui l'avons, en tout cas ce n'est pas le monde, mais il faut que nous, les chrétiens, nous l'ayons. Il ne faut pas qu'on agisse bêtement. Il y a des priorités. Alors, si nous ne sommes pas en règle dans nos priorités, eh bien, nous serons submergés quand l'ambiance catastrophique sera générale et on ne fera que de l'humanitaire. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ça quand la grande tribulation sera arrivée et que nous serons partis dans le ciel, ils écouteront ça et diront « j'entends finalement, il avait raison. » Dieu fera pour vous ce qu'il a fait pour les néphites, pour tous les siens. Je voudrais vous lire ce qu'il a fait pour les néphites dans le 34 de notre ère. On va lire 3 néphites. 26, 13, 14. 26, 13. C'est pourquoi je voudrais que vous voyiez que le Seigneur instruisit en vérité le peuple pendant 3 jours, et après cela, il se montra souvent à lui, et rompit souvent le pain, et le bénit, et le lui donna. Et il arriva qu'il instruisit et servit les enfants de la multitude dont il avait été parlé, et il leur délia la langue, et ils dirent à leur père des choses grandes et merveilleuses, plus grandes que celles qui avaient été révélées au peuple, et il leur délia la langue pour qu'ils puissent s'exprimer. Les néphites, ce sont ceux dont Jésus a parlé quand il a dit « Il y a une autre bergerie, il faut qu'ils entendent ma voix, j'irai leur parler, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce sont des gens qui vivaient, c'était des juifs qui vivaient sur le continent américain et qui avaient reçu des prophéties comme quoi Jésus allait arriver et quand il est venu là-bas, après être ressuscité, après être monté au ciel, il est allé là-bas, il a prêché et il leur a enseigné toutes les choses que nous savons, mais plus même, plus en détail. C'est pourquoi ce livre-là n'est pas comme la Bible, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. C'est pas un faux témoignage, c'est simplement un autre témoignage. Quand vous lisez un livre de Billy Graham, c'est un témoignage de Jésus-Christ. Quand vous lisez l'oracle, c'est un témoignage de Jésus-Christ. Quand vous lisez William Branham ou n'importe quel bouquin que vous achetez à gauche à droite, c'est des témoignages de Jésus-Christ. Eh bien ça, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ, quelque chose. Mais si vous ne voulez rien savoir, restez dans l'ignorance, c'est pas grave. En tout cas, là, il nous est dit qu'il leur a délié la langue. Eh bien, nous aussi, nous pouvons prier pour que Dieu délie notre langue. Si vous dites, je ne sais pas parler, j'arrive pas. Dieu est le Dieu des miracles, il peut délier votre langue afin que vous soyez dans la facilité pour parler aux gens des choses que vous savez. Si vous écoutez vraiment Jésus, il déliera votre langue pour que vous puissiez être ses témoins. Être son témoin, ce sera la seule joie qui vous restera bientôt. La seule joie. Vraiment, hein? Tout le malheur s'en ira grandissant sur cette terre jusqu'au jour de l'enlèvement, et votre seule joie, ce sera de pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Vous rendez compte? Non, je crois qu'on n'est pas compte. C'est la vérité, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut être prêts pour ça. Donc, à genoux, mon peuple. C'était un général suisse qui s'appelait le général Guizan. Pendant la dernière guerre, la Suisse était attaquée par le Nord, par les troupes allemandes. Et le peuple suisse a une armée formidable, mais voilà, on avait été épargné jusque-là, mais voilà que les Allemands allaient nous envahir. Et le général Guizan a parlé au peuple par la radio, en faisant un immense discours devant des milliers de Suisses. Il leur a dit, nous sommes des chrétiens, alors, à genoux, peuple de Dieu, prie ton Dieu. Et c'est ce que le peuple suisse a fait. Ils se sont mis à genoux, ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Les Russes ont attaqué les Allemands par derrière, les Allemands ont dû se retourner pour se défendre, ils ne sont jamais rentrés vraiment en Suisse. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien maintenant, peuple de Dieu, prie ton Dieu, c'est le moment de prier. Pas pour que Dieu soigne ton corps aux pieds, ou les machins, il y a des priorités. Demande à Dieu d'éclairer ton intelligence pour que tu comprennes quelles sont les priorités et que tu puisses être un serviteur vaillant, rempli du Saint-Esprit, tout à la gloire de Jésus. Amen. Jésus, je te demande de bénir ces quelques paroles que j'ai dites, et que ça soit écouté aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans, dans n'importe quel temps, que cela puisse toucher le cœur de ceux qui l'entendent, dans le nom béni de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen.
On va louer le Seigneur, on va chanter, et on va louer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Oui,